Ok. Et alors sur la fameuse validité des tests, est-ce que tu peux nous en dire
Oui.
plus?
Alors en fait, le test a une sensibilité d'à peu près, on va dire, 60-70%. C'est-à-dire que si on teste 30 personnes, pardon, 100 personnes qui sont toutes porteuses du virus, il y en aura 30% qui seront négatifs, mais en fait qui seront quand même porteurs du virus. Donc ça sera 30% de faux négatifs. C'est-à-dire que le test reviendra négatif, mais en fait ces personnes seront réellement porteuses du virus. Donc il y a ça, il y a la sensibilité qui est faible. Après, il y a aussi la technique de prélèvement, qui est une technique un peu plus. Je c'est pas moi qui fais les prélèvements, mais je pense que c'est un peu plus complexe que la grippe. Donc il y a la technique de prélèvement. Il y a aussi l'acheminement vers le laboratoire. Par exemple, nous à Fougères, les gens sont prélevés ici à Fougères, mais après le test est envoyé à Rennes, au labo de Rennes. Donc il y a aussi tout cet acheminement-là vers le laboratoire qui fait que le test peut revenir négatif parce qu'il a été traité quelques heures après.
Ok, donc il y a la validité des tests, en fait, sur par rapport aux gens qui se font tester, que ce soit du personnel soignant ou autre, en fait, il y a potentiellement plus de personnes qui sont atteintes du virus, mais qui sont déclarées comme sains, en fait, si j'ai bien
Bah, pas
compris.
plus, c'est-à-dire que voilà, la sensibilité 60-70%, c'est quand même pas c'est bien, mais c'est quand même pas énorme. C'est-à-dire qu'on certaines personnes, par exemple, ont des symptômes typiques avec une imagerie typique des poumons, mais le test reviendra quand même négatif. Donc ces personnes-là, on les considère comme positives, mais le test sera négatif. Donc après, ça, ce qui peut induire des problématiques dans nos services, puisque nous, à Fougères, les personnes qui reviennent négatives au test sont donc et qui nécessitent quand même d'être hospitalisées, sont donc on les garde à l'hôpital, mais on les répartit dans les différents services pour essayer de libérer le plus de places dans l'unité d'accueil du Covid. Et donc ce qui fait que des personnes qui ont un prélèvement négatif peuvent se retrouver par exemple chez nous en gériatrie, au milieu de personnes qui sont saines et de personnel qui n'est pas formé à prendre en charge des personnes qui sont Covid positifs. Je ne sais pas si c'est très.
Si, c'est clair, oui. La situation que tu décrivais là, en fait, elle amène de fait des situations de suspicion, de crainte, un peu d'anxiété.
C'est ça, c'est en fait on vit un peu dans l'angoisse permanente, et en fait tout ce qui pour grossir un peu les choses, tout ce qui pouvait paraître un peu simple avant, une pneumopathie par exemple typique bactérienne avec des symptômes cliniques typiques, bah là à cette période-là de l'épidémie nous fait douter. Est-ce qu'il faut qu'on prélève, est-ce qu'il faut qu'on prélève ou pas, est-ce qu'on peut l'hospitaliser dans une unité normale non spécialisée. Donc en fait ça remet tout en question de nos manières de travailler en fait. Est-ce qu'il faut qu'on aille faire une imagerie, c'est-à-dire un scanner à toutes les personnes qui ont des symptômes respiratoires? Voilà, ça remet un peu tout le travail et toute la progression dans le diagnostic pour arriver au diagnostic en question.
Du coup, ça veut dire qu'il y a une surcharge de travail.
Là, je parlerai pour Fougères. C'est en fait depuis l'annonce, je pense qu'il y a plusieurs hôpitaux comme ça où c'est en France. J'ai eu des échos sur les hôpitaux, même au CHU de Poitiers, même dans le sud vers Toulouse. C'est-à-dire que depuis l'annonce du confinement, par exemple chez nous, aux urgences, le nombre de passages a été réduit de 50%. Donc, ce qui est quand même beaucoup. Mais à côté, les gens qui viennent viennent pour de plus réels motifs. Et par contre, ce qui effectivement, on prend beaucoup de temps sur les personnes suspectes, en fait. Parce qu'il faut tout remettre en question, et notamment chez les personnes âgées où les symptômes ne sont pas typiques, où on peut avoir des symptômes digestifs, une altération de l'état général sans fièvre, sans signes respiratoires. Donc oui, ça prend du temps. C'est du stress en plus, de la charge de travail en plus. Voilà, toujours là, on va de plus en plus à l'imagerie, on fait de plus en plus des scanners, des scanners pour aller au diagnostic. Voilà, ça change un peu toutes nos techniques de prise en charge et de diagnostic. Donc oui, ça rajoute du temps de travail et de l'énergie.
Et du coup, là, par rapport à l'avenir, le fait que bah, pour Fougères ou pour Poitiers, le pic soit prévu dans au minimum dans une dizaine de jours, justement par rapport à cette anxiété, cette fatigue-là, comment est-ce que ça les gens se préparent ou...
Prépare, on attend en fait, et on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et on attend que ça arrive. Est-ce que ça arrivera ou pas? Ça, on peut pas le à Fougères, on peut pas trop le dire. Et donc oui, on attend. C'est toujours effectivement source d'angoisse, sachant que nous-mêmes, donc on travaille la journée, mais on est quand même confiné chez nous le soir. Donc oui, c'est quand même angoissant à la longue et on n'a pas de réponse en fait. Et je pense que personne n'a de réponse pour ça tant que le pic n'est pas arrivé et qu'on ne sait pas ce qui nous attend.
Ok, donc on voit bien que c'est une gestion vraiment au jour le jour et que voilà tout le personnel est sur le pied de guerre. Évidemment, on a aussi une pensée pour toutes les personnes qui s'occupent du ménage dans les services hospitaliers. Bah écoute, merci Ingrid pour cette interview. Est-ce que avant de s'arrêter là, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens, des trucs des petits tips.
Des conseils. Non, mais je me considère comme étant chanceuse en allant travailler. Certes, c'est un boulot difficile, mais en allant travailler tous les jours, je côtoie du monde et je comprends tout à fait les gens qui sont confinés à 4, 5 dans un appart en HLM. Voilà, je le conçois tout à fait que c'est difficile et qu'on vit pas la même chose en confinement en ville qu'à la campagne avec un grand jardin. Voilà, il faut vraiment essayer que il faut vraiment que tout le monde fasse les efforts de son côté et ça paiera. C'est chacun doit prendre ses responsabilités. Voilà, il faut se remettre à la guitare, cuisiner, lire des livres et voilà. Et surtout, on encourage beaucoup le personnel soignant et c'est très plaisant d'entendre les gens nous soutenir. Mais il faut pas oublier tous les gens qui travaillent autour, les gens qui travaillent dans l'alimentaire, les caissières, les éboueurs.
Ça laisse sous-entendre aussi que face à cette situation, l'État, lui, ne prend pas ses responsabilités, du moins du travail en général, pour tous les salariés.
Bah le travail en général, oui, quand on voit qu'il y a des entreprises enfin, qui forcent leurs employés à continuer à travailler alors que c'est pas vraiment une activité nécessaire à la poursuite actuellement. Voilà, je pense qu'il faut remettre les il faut remettre en question certaines pratiques actuelles, mais ça
Ouais. Par rapport justement au soutien de la population, toi, c'est quoi ton avis sur les banderoles qui sont affichées aux fenêtres ou les pancartes, les applaudissements, tout ça?
Bah c'est quand j'ai vu les vidéos que m'envoyaient mes amis la première fois, les petites pancartes, les petites banderoles, effectivement c'est très touchant et ça fait plaisir de savoir que les gens nous supportent et nous encouragent. Après voilà, il faut pas oublier que ça fait des mois que l'hôpital public ne va pas bien. Donc il ne faudra pas l'oublier une fois que la crise sera terminée.
Ok, du coup, on reste motivé, mais on n'oublie pas.
C'est
C'est
ça,
plutôt
tout à fait.
une belle maxime. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Donc évidemment, Fracture soutient tout le personnel de santé, le personnel d'entretien dans les hôpitaux. Peut-être qu'on reviendra vers toi pour faire un point un peu plus tard dans l'épidémie. Encore merci de ta participation.
Merci à vous.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fier de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume.
Donc nous sommes de retour sur Fracture. On vient d'écouter Je ne veux pas travailler de Martini. Donc maintenant nous allons parler donc je disais donc liberté en tout genre et je vais enchaîner tout de suite avec les prisons parce que ça bouge encore. Les matons ont obtenu rapidement dès le samedi 28 mars toutes les protections nécessaires, se félicite FO pénitentiaire. Alors pourquoi une réaction si prompte alors que par exemple les personnels d'EHPAD sont encore très mal protégés? Alors sans doute parce que le gouvernement et l'administration pénitentiaire savent que seuls les matons, qui ont des contacts avec l'extérieur, peuvent ramener le virus dans les prisons, ce qui inquiète et agace les prisonniers qui ont menacé et voire se sont déjà révoltés. En tout cas, sur ce sujet, toujours plus d'infos, comme on l'a déjà dit précédemment sur l'émission ou le site de L'Envolée. Notamment, on vous invite à lire le texte collectif qui s'appelle « Nous, détenus, bloquons les prisons de France ».
Et donc, on va passer sur un autre point par rapport effectivement à la justice et aux libertés, à savoir une tribune d'avocats qui est notamment parue dans Libération nous apprend que les conditions de détention ont été arbitrairement changées par le pouvoir. C'est-à-dire que l'ordonnance du 26 mars 2020, dans son article 16, est venue prolonger les délais maximums de détention provisoire de 3 à 6 mois selon la gravité des infractions. C'est-à-dire que toutes les détentions provisoires sont automatiquement prolongées, sans jugement d'aucune sorte, ni avocat, ni rien. À savoir qu'une détention provisoire, c'est une détention qui est faite lorsque un prévenu est en attente d'un procès. Donc il n'a pas été encore jugé, mais il est déjà en prison. Il faut savoir que là, ce sont après à peu près 21 000 procédures judiciaires qui vont rester qui sont en attente de jugement. Et donc, ce sont 21 000 personnes qui vont rester en prison en attente d'un retour à la normale. Précisons qu'en France, avec la Roumanie, ce sont les deux pays qui sont les champions d'Europe de la détention provisoire. À savoir qu'un tiers des détenus qui sont en prison en attente d'un jugement, donc en détention provisoire. C'est un abus d'autorité judiciaire manifeste de la part de la ministre Madame Belloubet. et c'est une grave dérive autoritaire, d'autant plus que ce n'est pas constitutionnel, puisque dans le droit français, en matière de détention, seule une loi, c'est-à-dire un texte proposé et voté par l'Assemblée nationale, peut modifier les conditions de détention, et non une circulaire ministérielle comme c'est le cas. Donc là, c'est-à-dire qu'on a vraiment un acte de loi qui émane du pouvoir exécutif et non du pouvoir législatif, comme normalement ça devrait être le cas. Donc une fois de plus, on peut voir que le masque de la démocratie bourgeoise et capitaliste tombe.
Et alors maintenant, sur le thème grand départ, la mise en place du confinement a entraîné l'exode de nombreux citadins et particulièrement de Paris. Au moins 1 million de personnes, soit 17% de la capitale, auraient fui la ville Lumière pour se réfugier dans les campagnes françaises, dans des résidences secondaires. Alors, s'il est d'une part compréhensible de vouloir vivre ailleurs, il est en revanche plus problématique d'avoir probablement répandu le virus alors que l'Île-de-France est l'un des plus importants foyers en France. Alors, ces arrivées massives ont bien évidemment été remarquées, notamment à La Rochelle, en Vendée, en Bretagne, et ont généré un certain nombre de tensions. Et notamment aussi en Bretagne, sur le territoire de Concarneau, l'arrivée massive de réfugiés a entraîné une restriction de l'eau potable, car l'usine de traitement est en travaux, et que ses capacités de traitement sont amoindries du coup. Ce qui n'a en fait pas empêché certaines personnes de remplir leur piscine ou de laver leur voiture. Cependant, contrairement à l'idée reçue, ce ne sont pas forcément que des riches ou des bourgeois, comme le montre un article de Reporter qui reprend les propos d'un chercheur sur l'économie du tourisme qui déclare donc qu'en réalité, environ 60% de ces résidences secondaires appartiendraient à des retraités ou travailleurs de la dite classe moyenne.
Sur ces questions de mouvement, on va parler maintenant un petit peu des autorisations de déplacement et autres Ausweis ou laissez-passer, comme on disait dans les années 40. Mais ces laissez-passer, qui sont indispensables à notre circulation, sont surtout un prétexte pour laisser libre cours à l'arbitraire policier pour juger de ce qui est indispensable ou non, et de savoir si les attestations sont conformes ou pas. Ainsi, on peut voir sur différents blogs, notamment le blog Verbalisé parce que, ou la page Facebook Cas de force majeure. Donc ces différents sites relatent les différentes situations dans lesquelles des personnes ont été victimes de l'arbitraire et de la violence policière, particulièrement dans les quartiers populaires, mais pas que. On sait qu'à l'heure actuelle, le fait de ne pas avoir d'attestation est passible d'une amende de non-confinement, mais il faut savoir aussi qu'on peut contester cette amende. Alors, en premier lieu, il faut absolument savoir que si on veut contester une amende de non-confinement, il ne faut pas la régler, car régler l'amende vaut reconnaissance de culpabilité. Et il faut, dans un second temps, entamer une procédure de contestation, et notamment remplir un document que l'on peut trouver sur le site « Confiné, mais pas isolé 35 », qui donc a fait un document téléchargeable en PDF dans lequel on peut contester une amende de non-confinement. On peut trouver de plus amples informations sur ce sujet-là, à savoir la contestation des amendes de non-confinement, sur les sites aussi de Paris-Lutinfo ou de alouest.info. Juste pour information, au 1er avril, Castaner, le ministre de l'Intérieur, a donné les chiffres suivants relativement aux amendes de non-confinement, à savoir que 5,8 millions de contrôles avaient été faits et que 359 000 procès-verbaux avaient été dressés en 15 jours. Voilà probablement comment remplir les caisses de l'État et financer la lutte contre la pandémie. Autre point aussi sur la question de la fouille, c'est-à-dire est-ce que quand vous êtes arrêté par la police dans le cadre d'un contrôle de non-confinement, est-ce que la police est en droit de vous fouiller ? Alors c'est une question qui est assez complexe puisqu'il y a différents cas, est-ce que ça va être une flagrance ? Est-ce qu'il va y avoir une réquisition du procureur ? En tout cas, il faut savoir que la police n'a pas tous les droits et on vous invite à aller voir le site de la Ligue des droits de l'homme, notamment la section de Paris, qui a fait toute une petite fiche descriptive sur les droits que vous avez à refuser une fouille en cas de contrôle de non-confinement. Il faut savoir que là, en tout cas, la police n'a aucun droit de vous dire ce qui est indispensable ou pas comme bien que vous avez acheté alimentaire ou non dans vos courses. Ils n'ont aucun droit pour vous dire ça c'est indispensable ou pas. Sur cette question un petit peu des contrôles du non-confinement, on va faire un petit point sur Nantes, où la préfecture et la ville de Nantes ont mis beaucoup de moyens pour effectuer le confinement. C'est-à-dire que dans la journée, il y a des drones qui survolent la ville, et des camarades de Nantes nous apprennent même que dans la nuit, c'est carrément un hélicoptère qui surveille les habitants. Armé de caméras infrarouges, cet hélicoptère chasse les personnes qui ne respectent pas le couvre-feu. Et donc, par exemple, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, c'est 3 personnes qui se sont fait interpeller et qui ont été punies par des amendes. une heure de vol en hélicoptère coûte 3000 euros. Ça fait donc réfléchir sur l'utilisation de l'argent public dans ce moment de confinement et de lutte contre la pandémie. C'est aussi une bonne occasion pour la police de tester ses nouveaux joujoux et ses nouveaux moyens de contrôle.
Tout à fait. Et dans la continuité des contrôles, eh bien, c'est parti, les condamnations tombent. Car effectivement, en cas de plusieurs récidives, si on n'a pas le papier d'autorisation de sortie ou enfin, en tout cas, qui n'est pas considéré valable par les policiers, on risque maintenant des peines de prison. Déjà, une dizaine de personnes sont concernées et passent en comparution immédiate. À Calais, notamment, un mec a pris de la prison ferme. D'ailleurs, pour les personnes qui passent et vont passer devant le tribunal, le procureur de la République de Paris propose que les peines soient notamment des tiges, c'est-à-dire des travaux d'intérêt général, après l'épidémie qui serait réalisée à l'hôpital. On voit encore ici que les bonnes idées pour renforcer l'hôpital public ne manquent pas. C'est vraiment n'importe quoi. Tout est prétexte à ne surtout pas donner de vrais moyens à des salariés qui les réclament depuis des années, en sachant que la bonne idée, ils l'ont déjà eue, puisqu'il y a des services civiques qui travaillent dans les hôpitaux et qu'ils se retrouvent à faire du travail pour lequel ils ne sont pas formés et absolument très mal payés.
Alors, sur la question aussi des libertés d'information plus locales, puisqu'on va s'intéresser à la Nouvelle-Aquitaine, France 3 Nouvelle-Aquitaine nous apprend que l'occupation militaire du territoire local va s'accentuer. En effet, dans le cadre de l'opération dite Résilience, des militaires vont être déployés dès mercredi 2 avril, d'abord à Bordeaux, La Rochelle et Bayonne, puis dès vendredi à Limoges, Poitiers et Agen. Déployés pour soi-disant sécuriser et rassurer la population, mais aussi accompagner la police, ces forces d'occupation vont surtout servir à intimider et renforcer l'emprise autoritaire du pouvoir sur les populations. Car cette information est aussi à mettre en regard avec une autre information, à savoir qu'environ 10 000 policiers sont confinés pour suspicion de contamination. Les effectifs policiers sont donc en berne. Les militaires vont donc jouer les auxiliaires de police, car en l'état, même si en l'état, ils n'ont pas les moyens, législatifs d'intervenir. Et il faut savoir aussi que les policiers ne sont pas équipés de PIS, donc d'équipement individuel de protection sanitaire. Mais d'un autre côté, que les policiers se rassurent, à savoir que le site Révolution Permanente nous apprend qu'il n'y a pas de stock de masques, mais en revanche que le gouvernement a prévu des stocks de lacrymo pour 4 ans. Le gouvernement a expliqué le manque de moyens dans la santé par le manque d'argent magique. En 2017, l'État avait engagé 17,5 millions d'euros dans l'achat de grenades lacrymogènes pour 4 ans. Il n'y a pas de doute, le déploiement de l'armée, c'est bel et bien une guerre que le gouvernement a déclaré, mais non pas une guerre sanitaire, mais bel et bien une guerre sociale.